Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique. Bienvenue dans cette édition du vendredi 10 mai 2024. Voici d'abord les principaux titres. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno remporte l'élection présidentielle dès le premier tour, mais son premier ministre Succès Mastra conteste cette victoire. Des rebelles affiliés à l'État islamique tuent 8 civils, dont des patients hospitalisés dans une attaque en RDC. La pêche illicite au Cameroun recherche de solutions pour lever le carton rouge de l'Union européenne.
Si nous ne pouvons pas exporter, vous voyez quel impact ça. Les opérateurs vont être découragés parce qu'il y en a qui viennent pêcher au Cameroun uniquement pour l'exportation.
La Somalie demande la fin de la mission politique de l'ONU après plus de 10 ans. L'exposition des 72 heures du livre à Conakry, axée sur la littérature et le sport pour encourager la lecture chez les jeunes.
Les Guinéens lisent. Ils n'avaient pas d'opportunité pour lire. Je vous donne quelques chiffres. À la première édition des 72 heures du livre, c'était 1000 visiteurs. Aujourd'hui, on avoisine les 80 000 visiteurs.
Israël prête à se battre seul malgré les menaces de gel des armes par les États-Unis, déclare Netanyahou. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, les résultats de la présidentielle ont été annoncés plus tôt que prévu par l'Agence nationale de gestion des élections, confirmant sans surprise la victoire du chef de la junte Mahamat Idriss Déby Itno au premier tour, 3 jours après le scrutin. Cependant, quelques heures avant, son rival de premier ministre Succès Mastra s'était également autoproclamé vainqueur au premier tour. André Kodmajingar pour les détails.
L'Agence nationale de gestion des élections a déjoué tous les pronostics qui étaient en faveur de l'ancien opposant Dr. Succès Mastra à quelques heures de la proclamation de ses résultats provisoires. Elle déclare le président sortant Mahamat Idriss Déby Itno gagnant dès le premier tour avec 61,03%. Son principal adversaire politique, Dr. Succès Mastra, récolte seulement 18,53% et occupe la deuxième place. Albert Paimi Padaki, le dernier premier ministre de Déby père et premier ministre de la transition arrive en troisième position avec un peu plus de 16%. Selon l'Agence nationale de gestion des élections, le taux de participation est de 75,89%. Le président de l'ANCH, Ahmed Bartiré, appelle tous les acteurs impliqués dans ce processus au calme. La proclamation du résultat provisoire s'est déroulée sous haute sécurité. Les quartiers sud de N'Djamena, fief de l'opposition, sont quadrillés en début de la soirée par les forces de défense et de sécurité bien équipées avec des engins de guerre, obligeant les populations de ces quartiers périphériques à rentrer très tôt. Aucune réaction du côté des candidats, malheureux pour l'instant. Cette victoire, bien que provisoire, mais les partisans de Mahamat Idriss Déby Itno ont éclaté leur joie en faisant crépiter les armes. André Kodumajingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
En RDC, au moins 8 civils, y compris des patients alités dans un centre de santé, ont été tués dans l'est du pays lors d'une attaque menée par des rebelles ADF, un groupe armé affilié à l'organisation État islamique. Eddy Issangou.
L'ennemi est venu de la province d'Ituri et a attaqué en début de soirée à Mantumbi, dans la province voisine du Nord Kivu, a précisé à la presse Omar Kalicia, président de la société civile du territoire de Beni. Les bilans qu'il a donnés hier soir étaient des 8 morts, des malades ainsi que les comptables du centre de santé sont comptés parmi les victimes. Ils ont été tués à la machette et par balle par des assaillants identifiés comme ADF qui ont pillé la structure sanitaire avant de l'incendier. Un infirmier est porté disparu. Un chef de secteur de Beni, Léon Sivoué, estime pour sa part qu'il y a plutôt eu 10 morts, mais soutient ne pas comprendre que l'attaque ait lieu alors qu'une position des UPDF, l'armée ougandaise, est à quelques mètres. Les armées congolaises et ougandaises mènent depuis 2021 des opérations conjointes contre des ADF, forces démocratiques alliées, dans le Nord Kivu et en Ituri. Les ADF, à l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, sont implantés depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC, où ils ont tué des milliers de civils et multiplié ces dernières semaines les attaques des villages, des voyageurs et des centres de santé les plus souvent pillés.
La gestion des fonds publics dans les deux chambres du Parlement de la RDC est caractérisée par la fraude et l'enrichissement illicite des élus, accuse dans un rapport publié jeudi une ONG congolaise qui appelle à l'audit de cette institution. Intitulé « Le biface du Parlement congolais », un contrôleur a contrôlé ce rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local, couvre les exercices budgétaires 2021 à 2023. La Somalie a officiellement demandé les Nations Unies de mettre fin à leur mission politique dans le pays qui est présente depuis plus d'une décennie. Le mandat de cette mission prend fin en octobre prochain. Mohamedou Oumfa.
Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité, le ministre somalien des Affaires étrangères, Ahmed Mualim Fiki, demande la fin du mandat de la MANUSOM, mission d'assistance des Nations Unies en Somalie, saluant le dévouement de la mission qui a joué un rôle crucial pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement du pays. Il estime qu'il est désormais approprié de passer à la prochaine phase du partenariat. Il assure que les leçons apprises durant la présence de la mission continueront à guider les efforts du gouvernement. La MANUSOM a été créée en juin 2013 par le Conseil de sécurité de l'ONU pour soutenir les autorités dans la transition vers la démocratie et un état de droit après plus de 20 ans de conflit entre milices claniques, groupes islamistes et gangs criminels. En octobre, lors du dernier renouvellement du mandat de la MANUSOM, le Conseil de sécurité avait appelé la mission à continuer de maintenir et de renforcer sa présence dans l'ensemble de la Somalie. Le Conseil s'était également dit préoccupé par toutes les violations du droit international humanitaire, ainsi que par les violations des droits humains, y compris celles associées aux violences sexuelles et fondées sur le genre en période de conflit, appelant toutes les parties à la protection des civils.
La plus haute cour sud-africaine examine ce vendredi un recours sur l'éligibilité de l'ancien président Jacob Zuma. Question cruciale à moins de 3 semaines d'une élection qui s'annonce comme la plus serrée depuis 30 ans. Monsieur Zuma, 82 ans, est à la tête d'un nouveau parti d'opposition qui cible notamment des électeurs déçus de l'ANC. La cour est appelée à trancher sur l'interprétation d'une norme constitutionnelle interdisant à toute personne condamnée à plus de 12 mois de prison de siéger au Parlement. La décision ne pourrait qu'intervenir la semaine prochaine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré jeudi que si Israël devait faire face à une situation où il se trouve seul, il serait prêt à combattre seul, comme indiqué dans un communiqué publié par son bureau. Cette affirmation intervient après que les États-Unis ont menacé de suspendre les livraisons d'armes à leur allié historique, Nanit Talani.
Je l'ai déjà dit, s'il le faut, nous combattrons avec nos ongles, a déclaré Benjamin Netanyahou. Le président américain Joe Biden a fait savoir qu'il pourrait suspendre certaines livraisons d'armes à Israël si son armée entrait à Rafah, une ville du sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne a suffisamment d'armement pour accomplir sa mission à Rafah, a assuré de son côté le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée. Le 2 mai, sur fond de critiques internationales croissantes contre la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, M. Netanyahou avait déjà affirmé que les Juifs devaient être capables de se défendre seuls, car personne ne les protégera. Benjamin Netanyahou martèle depuis des mois être déterminé à lancer une offensive terrestre d'ampleur contre la ville de Rafah, où, affirme-t-il, se cachent les derniers bataillons du Hamas, mais où s'entassent aussi, selon l'ONU, 1,4 million de Palestiniens, en grande majorité des déplacés par 7 mois de bombardements israéliens et de combats qui ont laissé en ruine le reste de la bande de Gaza.
La diplomatie égyptienne a exhorté le Hamas et Israël à faire preuve de flexibilité pour parvenir à un accord dans les plus brefs délais pour mettre fin à la tragédie humanitaire dans la bande de Gaza. La situation à Gaza est au programme ce vendredi d'une session spéciale de l'Assemblée générale à l'ONU. Le ministère américain de la Sécurité intérieure a publié jeudi un projet de réglementation permettant une expulsion accélérée de demandeurs d'asile. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco. présenté ce matin par Nani Tetelani.
Le Nigeria pourrait produire 6 millions de barils de pétrole par jour avec des investissements adéquats dans son secteur énergétique, a déclaré mardi le ministère du pétrole. La production pétrolière du Nigeria est tombée à un peu plus de 1,3 million de barils par jour depuis que la grande société pétrolière Shell a quitté le pays. Le FMI annonce qu'il poursuit les discussions avec les autorités zambiennes sur les politiques qui débloqueront le prochain décaissement d'un programme de prêt de 1,3 milliard de dollars sur 3 ans. Le FMI a débloqué 187 millions de dollars en décembre, alors que la Zambie se rapproche de la sortie d'un défaut de paiement, tout en étant aux prises avec une sécheresse sévère. Pour terminer, les pays émergents paieront cette année 400 milliards de dollars pour leur dette extérieure et 47 d'entre eux ne pourront pas dépenser l'argent dont ils ont besoin pour l'adaptation climatique et le développement durable sans risquer un défaut de paiement dans les 5 prochaines années, assurent le FMI et la Banque mondiale. De nombreux pays à risque se trouvent en Afrique, notamment le Sénégal, le Nigeria et le Kenya. Le rapport appelle à une refonte de l'architecture financière mondiale, à l'annulation de la dette des pays les plus à risque, à une hausse des financements abordables et à des améliorations du crédit.
Après l'économie, nous passons directement à votre page d'espoir avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
L'AS Douane se relance dans la Basketball Africa League.
Oui, un buzzer beater de Mike Fofana à la dernière seconde a permis au club hôte de la conférence du Sahara de s'imposer 56-54 face au leader de ce groupe, les Rivers Hoopers du Nigeria, qui s'incline pour la première fois après 3 victoires en 3 matchs. C'est le deuxième succès pour l'AS Douane du Sénégal en 4 rencontres. Mais bien avant ce match, toujours hier, les Tunisiens de l'US Monasti ont décroché leur première victoire dans ce groupe en battant les Rwandais d'APR 83-70. Pas de rencontre aujourd'hui. Les derniers matchs de cette conférence du Sahara se jouent demain samedi et dimanche. En jeu, 2 tickets et une place de meilleur 3e de l'ensemble des 3 conférences qualificatifs pour les playoffs prévus à la fin de ce mois à Kigali au Rwanda.
Ici à NBA, Yakuba, les Hornets engagent Charles Lee comme entraîneur.
Charles Lee, premier adjoint de l'entraîneur des Boston Celtics, toujours en course dans les playoffs NBA, sera le prochain entraîneur en chef des Hornets, a annoncé l'équipe de Charlotte. Jeff Peterson, l'un des dirigeants des Hornets, a précisé que Lee rejoindrait son nouveau club une fois son parcours terminé avec les Celtics. Les joueurs de Boston ont entamé mardi par une victoire leur demi-finale de conférence Est contre Cleveland, disputée au meilleur des 7 matchs. Lee, 39, a été entraîneur adjoint en NBA pendant 10 saisons. D'abord à Atlanta de 2014 à 2018, puis à Milwaukee de 2018 à 2023, où il a participé à la conquête du titre par les Bucks en 2021.
Football au Mali, le Real de Bamako a un nouvel entraîneur, n'est-ce pas?
Il s'agit du Burkinabé Firmin Sanou, ancien sélectionneur adjoint des étalons du Burkina Faso, qui explique ses motivations.
Donc je pense qu'en venant ici, je vais connaître la réalité et je voulais savoir beaucoup de choses sur le mode de fonctionnement du football malien. C'est un pays voisin du Burkina. Le Mali a réussi à sortir de très très grands joueurs qui ont joué dans des très grands clubs européens. Le Mali a eu le premier ballon d'or africain.
Firmin Sanou, nouvel entraîneur du Real de Bamako, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant dans la capitale malienne.
Et puis Yakuba, la FIFA se met de changer le calendrier du Mondial des clubs 2025.
L'Association mondiale des ligues de football et la FIFPro, syndicat mondial des joueurs, ont sommé la FIFA de revoir le calendrier de la nouvelle Coupe du monde des clubs en 2025, sous peine d'engager une procédure judiciaire. Dans une lettre adressée le 2 mai au président de la FIFA, Gianni Infantino, les ligues et la FIFPro soutiennent que le calendrier des compétitions de football est désormais au-delà de la saturation. La future Coupe du monde des clubs, disputée à 32 équipes, est programmée du 15 juin au 13 juillet 2025. Ces changements de calendrier ont créé un préjudice économique pour les ligues nationales et ont poussé les joueurs au-delà de leurs limites, soutiennent les ligues. Elles demandent au Conseil de la FIFA de reprogrammer la Coupe du monde des clubs et de rouvrir les discussions sur le calendrier international pour la période allant jusqu'en 2030.
C'était la page des sports signée Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila-Kidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Cameroun, les autorités sont toujours à la recherche de solutions pour contrer la pêche illicite et ainsi lever le carton rouge émis par l'Union européenne. Cette mesure, instaurée en janvier 2023, a conduit à l'interdiction des produits de la pêche camerounais sur le marché européen. Plus d'un an après, les répercussions de cette sanction se font sentir dans le secteur halieutique, comme le rapporte notre correspondant Emmanuel Julntap depuis Yaoundé.
C'est un navire battant pavillon camerounais qui a été impliqué dans les activités de pêche illicite l'an dernier hors des eaux camerounaises. La sanction de l'Union européenne a de l'impact sur les crevettiers nationaux qui ne ravitaillent plus que le marché local. Louis Martin Oumoulanok, président de la plateforme crevette du Cameroun.
Si nous ne pouvons pas exporter, vous voyez quel impact ça. Les opérateurs vont être découragés parce qu'il y en a qui viennent pêcher au Cameroun uniquement pour l'exportation. Quand vous ne pouvez pas exporter, ils sont obligés d'aller voir ailleurs.
Certaines suggestions ont été faites au gouvernement pour la reprise des exportations vers l'Union européenne. Louis Martin Imoulanok, président de la plateforme crevette du Cameroun.
Nous avons parlé d'abord de revoir la loi. La loi de 1994 était mixée. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir sur une loi spécifique pour la pêche. Revoir également l'amélioration sanitaire pour qu'il peut nous donner l'avantage sur l'exportation de la crevette. Et nous travaillons également pour voir comment on peut labelliser la crevette camerounaise.
Mais la principale exigence de l'Union européenne porte sur l'immatriculation des navires qui battent pavillon camerounais et pratiquent la pêche illicite non déclarée et non réglementée hors des eaux camerounaises. Dr Badaï Eli, chef de la brigade du contrôle et de surveillance des activités de pêche au Cameroun.
Sur la lutte contre la pêche INN en 2023, nous avons reçu plusieurs notifications des pays comme des organisations qui nous ont permis d'interpeller 15 navires, de les notifier et de les sanctionner. Mais 4 ont été sanctionnés véritablement.
Le Cameroun doit aussi nécessairement bannir la réputation de pavillon de complaisance. Aristide Takoukam Kamla, président de African Marine Mammal Conservation Organization, AMCO.
Le pavillon de complaisance, c'est le fait qu'un pays reçoive ou bien enregistre les bateaux étrangers sans prendre la peine de vérifier les antécédents de pêche et donc permet ainsi aux navires qui ont été chassés dans les pavillons d'autres États et viennent donc se réfugier dans le pavillon camerounais. Le Cameroun devenait donc un refuge pour les navires qui ne veulent pas se conformer à la pêche durable.
Les mécanismes de contrôle des activités de la pêche dans et hors des eaux camerounaises sont également une faiblesse à améliorer. Dr Badaï Eli, chef de la brigade de contrôle et surveillance des activités de pêche au Cameroun.
Nos textes sont faibles. Nous avons relevé ces écarts-là par rapport aux exigences internationales. Nos deux VZ que nous avions au départ sont obsolètes. Il faut réhabiliter ces VZ-là.
D'après les autorités, les équipements de surveillance satellitaire et de radar du Cameroun ont été piratés. D'ici la fin de l'année, le pays compte acquérir un nouveau système de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de la pêche. L'examen de la nouvelle loi sur la pêche par l'Assemblée nationale pourrait se faire quant à elle en juin prochain. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les résidents de la banlieue de Nairobi expriment leur indignation face à ce qu'ils perçoivent comme une construction illégale de gratte-ciel dans leur quartier, principalement mené par des entrepreneurs chinois. Les détails dans ce reportage de Juma Majanga, le récit est de Rosine Munezir.
Dans la banlieue de Kilimani à Nairobi, des habitants comme Jerotich Sei réfléchissent à ce qu'ils vont faire pour mettre fin à ce qu'ils disent être des constructions illégales dans leur quartier.
Ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est une construction non planifiée. Si vous n'avez pas d'égout, si vous n'avez pas de route plus large, si vous n'avez pas de caserne de pompiers, si vous n'avez pas assez d'écoles, si vous n'avez pas d'hôpitaux, tout ce que vous faites, c'est construire et construire et construire des logements sans la planification requise.
Kilimani est l'une des zones où les habitants s'élèvent contre la construction de gratte-ciel. L'architecte Alfred Omenia dirige le cabinet de conseil en développement urbain, Ecobuilt Africa.
Beaucoup de bâtiments que nous voyons ici ne répondent même pas aux exigences de la mairie en matière de contrôle du développement. Et ils sont approuvés par la mairie. Je peux le dire sans crainte d'être contredit, depuis des années, la mairie est à la citadelle de la corruption.
Jerotich affirme que des entreprises chinoises utilisent des pratiques de corruption pour contourner les procédures légales.
Et j'en appelle vraiment à l'Association chinoise des promoteurs immobiliers. Ils sont complices. Ils ont compris la propension et l'appétit pour la corruption que l'on trouve dans ce pays et ils l'ont exploité au maximum.
Les représentants du gouvernement de la ville ont décliné la demande de commentaires de la VOA et les constructeurs chinois n'ont pas répondu à la demande de la VOA de réagir à ces allégations. L'économiste XN Iraki affirme cependant que les entrepreneurs chinois ont apporté de l'efficacité à l'industrie de la construction.
Laissons la concurrence s'installer. Je pense que cela va améliorer le secteur de la construction au Kenya. L'expertise kenyane va apprendre quelque chose. À long terme, les clients en profiteront car s'il n'y a pas de concurrence, nous ferons du travail bâclé, nous ne serons pas efficaces.
La constitution kenyane exige que les citoyens participent aux décisions de gouvernance sur les questions qui les concernent.
La loi prévoit clairement comment le public doit participer, mais cela n'existe pas dans la pratique. Des fonctionnaires demandent la participation du public alors qu'ils ont déjà pris leur décision. Ce n'est que pour cocher les cases.
Selon Alfred Omenia, les fortes pluies et les inondations meurtrières qui ont récemment frappé le Kenya aggravent les problèmes causés par les constructions non planifiées.
Au moment où vous construisez ces gratte-ciels, en particulier dans ces zones où nous envisageons un développement d'un acre, tout l'espace sera en béton. Où va cette eau?
La Banque mondiale prévoit que 70% de la population mondiale vivra dans des villes d'ici à 2050 et les experts affirment que la planification sera essentielle dans des villes comme Nairobi.
Les autorités africaines en charge du domaine numérique et des données ont exprimé leur volonté de développer un marché numérique unifié en Afrique, favorisant la circulation sécurisée des données à travers les frontières. Lors d'une réunion à Nairobi au Kenya, les experts du secteur appellent les pays du continent à élaborer et à mettre en œuvre des lois adéquates pour protéger les données des individus et des entreprises, afin de stimuler la transformation numérique et de surmonter les obstacles aux affaires et au commerce en Afrique. C'est un reportage de Mohamed Youssouf et récit Yacouba Ouedraogo.
Des représentants des gouvernements africains en matière de technologie, de l'information et de la communication, des organisations internationales, des diplomates et des experts discutent à Nairobi de la manière dont les données peuvent circuler librement sans mettre en péril la vie privée et la sécurité des personnes. Pour le ministre kenyan de l'Information, de la Communication et de l'Économie numérique, Eliud Owalo, l'Afrique doit améliorer sa législation pour faire face aux nouveaux enjeux de l'espace numérique.
Ce qui permettra aux pays africains de rester pertinents sur le marché numérique, c'est notre niveau de créativité et d'innovation, d'agilité stratégique et de manœuvre dans l'espace numérique. Cela signifie que nous devons continuellement, en fonction de ce qui se passe dans notre environnement opérationnel, examiner nos lois, nos politiques et nos réglementations, réfléchir à ce que nous devons faire.
Le rapport 2023 de l'ONDA, une organisation qui surveille les droits numériques, l'environnement et l'inclusion en Afrique indiquent que les fermetures et les perturbations de l'Internet, la protection des données, la désinformation, la cybersécurité, la surveillance et le manque de liberté d'expression et d'information ont un impact sur la croissance et la viabilité numérique du continent. Les experts affirment que les données jouent un rôle important dans tous les secteurs et que leur partage rend l'information plus accessible, accroît les collaborations et facilite l'échange de connaissances, ce qui conduit à l'innovation et à la croissance des entreprises et des relations entre les États. Paul Russo est à la tête du Kenya Commercial Group qui opère dans 7 pays africains. Il estime que le débat sur le partage des données et la sécurité est important pour les entreprises qui opèrent dans différents pays africains.
Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau domaine que nous devons travailler ensemble à faire vivre, mais je pense aussi qu'il est important que nos propres entreprises soient durables. Au cœur de chaque entreprise, il y a les données sur l'intégrité, la confidentialité et la protection de ces données.
L'utilisation abusive des données inquiète de nombreuses personnes, entreprises et gouvernements dans le monde. Ces craintes continuent de susciter des débats sur la meilleure façon de sauvegarder, de réglementer, de contrôler et de tirer profit des données disponibles. Le chef de mission adjoint de l'Union européenne au Kenya, Andrej Simek, a fait savoir que la protection des données nécessite un effort mondial et que les lacunes doivent être comblées par les moyens juridiques.
La première étape consiste à s'assurer que les lois sur la protection des données sont en place. La seconde est de les rendre opérationnelles de manière efficace. Il s'agit d'étapes essentielles vers le marché numérique unique de l'Afrique et vers un espace mondial d'échange de données en toute sécurité.
Alors que l'accès à Internet se développe sur le continent et que certains sont prêts à échanger des données, d'autres hésitent à le faire en raison de l'absence de cadre juridique régional pour guider le partage des données sans enfreindre les lois nationales. Les experts africains du numérique et des données espèrent surmonter les politiques et les lois qui entravent le partage d'informations et disposer d'une loi commune qui va faciliter l'échange de données à travers les frontières et au-delà.
L'exposition des 72 heures du livre qui vient de se clôturer à Conakry en Guinée avait pour thème littérature et sport. L'objectif principal de cet événement était de promouvoir la lecture auprès des jeunes. Pour faire le bilan de cette initiative, Georges Léonard Sagnot a eu un entretien via Skype avec Sansi Kaba Diakité, organisateur de l'événement et également directeur de l'Harmattan Guinée.
Quand je suis rentré à Conakry, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'espace de rencontre, de discussion autour du livre et de la lecture. Donc, ayant une maison d'édition, ayant des nouveautés chaque fois, j'ai réfléchi. Je me suis dit, pourquoi pas créer un salon du livre. Et dans mes recherches, j'ai remarqué que le 23 avril de chaque année était la journée mondiale du livre. Une ville devenait automatiquement capitale mondiale du livre. Je me suis dit, on va commencer à célébrer cette date en Guinée, mais vu que la Guinée est en retard, nous n'allons pas nous limiter à une seule journée. Nous allons en faire 3 jours, la célébration de la journée mondiale à Conakry. Et 3 × 24, ça fait 72 heures, donc d'où les 72 heures du livre de Conakry. C'est le salon du livre où il y a des expositions, des dédicaces, des tables rondes, beaucoup d'activités autour du livre et de la lecture. Aujourd'hui, c'est devenu la principale plateforme du livre et de la lecture en Afrique de l'Ouest. Et notre objectif, c'est d'appuyer ça pour que ça devienne le marché international du livre d'Afrique, ici à Conakry, pour qu'on puisse échanger, travailler, et commercer, faire en sorte que le livre ait véritablement sa place dans nos sociétés. Donc les 72 heures du livre de Conakry, c'est la 16e édition qu'on vient de célébrer là, à l'occasion de la journée mondiale du livre. Et c'est véritablement le salon du livre en Guinée.
Avez-vous le sentiment que les Guinéens lisent?
Moi, je dirais oui, les Guinéens lisent. Ils n'avaient pas d'opportunité pour lire. Je vous donne quelques chiffres. À la première édition des 72 heures du livre, c'était 1000 visiteurs. Aujourd'hui, on avoisine les 80 000 visiteurs. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'opportunité. Pour jouer au football, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des stades de foot. Pendant l'année du livre, on a créé des espaces de lecture dans les quartiers de Conakry. Il y en a 26 aujourd'hui. Je vous assure que les enfants, les gamins partent lire. C'est parce qu'ils n'avaient pas de bibliothèque, ils n'avaient pas de médiathèque pour aller lire. Nous venons de célébrer la journée mondiale du livre. On a organisé des concours de lecture au niveau du primaire, du collège et du lycée. C'était extraordinaire. Il y a une telle soif de lecture que moi, je me dis que nos gouvernements, notre République doit s'investir pour créer les infrastructures qu'il faut. Les gamins, les adultes, tous se mettront à la lecture.
Et comment a été la 16e édition?
Extraordinaire. Nous avions le Cameroun comme pays invité d'honneur, la France comme un pays invité de marque, et la thématique, c'était littérature et les sports. Vous voyez un peu, le Cameroun, c'est un pays des lettres, c'est un pays des sports. La France accueille les Jeux Olympiques de cette année. On a essayé de lier l'actualité littéraire à l'actualité internationale.
Sansi Kaba Diakité, directeur de l'Harmattan Guinée. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manelakidza à ce micro. Michel Claire-Joseph a assuré la production et la réalisation. À la console, Nashwan Kale. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.